suite le journal Claire Flochel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Combattre la haine sur Internet, c'est aujourd'hui que la proposition de loi portée par la députée LREM Laetitia Avia doit être adoptée en première lecture à l'Assemblée. Facebook, Twitter, Google et les autres devront supprimer les contenus haineux dans un délai de 24 heures. Le texte, au départ plutôt polémique, a fait l'objet de nombreux amendements. Il recueille désormais un relatif consensus. Frédéric Seyss.
C'était une loi pour le moins controversée. Risque de censure, d'inefficacité, de disproportion, dénonçaient les oppositions. Mais finalement, après plusieurs modifications substantielles, le texte trouve des partisans au-delà des députés de la majorité. Ainsi, d'après nos informations, la droite va voter pour ce texte. Les socialistes oscillent entre le vote pour et l'abstention. Le parti communiste, qui était opposé au texte initial, va finalement s'abstenir. Seule la France insoumise et le Rassemblement national voteront contre.
Alors comment expliquer ce relatif consensus, Frédéric ?
D'abord, le gouvernement a accepté la semaine dernière de créer une juridiction spécialisée dans les affaires de haine en ligne, un parquet national qui pourra se saisir des cas les plus graves. Même si des interrogations demeurent sur les moyens qui seront alloués à ce parquet spécialisé, l'annonce a contenté les oppositions. Le texte a aussi été étoffé, ce ne sont plus seulement les contenus à caractère raciste, homophobe, antisémite ou sexiste qui sont visés, mais aussi le harcèlement, le proxénétisme, l'apologie de crimes contre l'humanité. Les moteurs de recherche et les plateformes comme Google, Facebook ou Snapchat, auront désormais 24 heures pour supprimer ces contenus. Sous peine d'une forte amende, celle-ci pourra représenter jusqu'à 1,25 million d'euros. La loi prévoit aussi que ces plateformes devront afficher un dispositif de signalement des contenus jugés illégaux. Alors un certain nombre de points restent tout de même contestés. Ne risque-t-on pas de transformer les plateformes en arbitres de la liberté d'expression ? Comment éviter les phénomènes de signalement abusifs, par exemple entre deux adversaires politiques ou deux entreprises concurrente. De l'avis général, cette loi pourra être affinée. Elle prévoit d'ailleurs la création d'un observatoire de la haine en ligne pour mesurer l'effet de la nouvelle législation.
Frédéric Seyss. Le grand oral des candidats de La République En Marche à la mairie de Paris. C'est cet après-midi que la Commission nationale d'investiture doit départager Hugues Granson, Cédric Villani et Benjamin Griveaux avec une réponse attendue demain soir. Des écoles de journalisme venues du monde entier se retrouvent ce matin à Paris pour un congrès mondial. 70 pays sont représentés. L'occasion de discuter des bouleversements de la profession et de l'enseignement du métier à l'heure notamment des fake news et de la défiance envers les médias. Il devrait être question d'ailleurs de la représentativité des journalistes. C'est l'une des nombreuses critiques visant la profession. Les rédactions ne seraient pas assez à l'image de la société. Abdelhak El Idrissi.
La critique n'est pas nouvelle, mais elle devient récurrente. Les médias ne sont pas assez représentatifs, les journalistes se ressemblent tous et sont formatés. Du côté des écoles, qui sont souvent pointées du doigt, on dénonce une méconnaissance du fonctionnement de l'enseignement du journalisme. Pascal Guéné, le directeur de l'Institut pratique de journalisme de l'Université Paris-Dauphine, s'agace de ce débat.
C'est un peu cette espèce de débat circulaire sur le formatage. Vous voyez, on dirait que les écoles de journalisme seraient des lieux de formatage où finalement on reproduirait un modèle attendu, etc., etc. Et dans les écoles de journalisme, on va dire, mais au fond, est-ce que les rédactions ont vraiment envie de voir arriver des profils différents, plus innovants ? On peut réellement se poser la question.
Pascal Guéné rappelle que depuis plus de 7 ans, les écoles françaises ont mis en place des conventions et des classes préparatoires au concours pour assurer l'égalité des chances des candidats. Mais cela ne suffit pas selon Barbara Chazelle, spécialiste de la transformation des médias et des nouvelles pratiques journalistiques.
Moi, ce que je constate dans les entretiens que je peux faire passer à des jeunes diplômés, c'est quand même une idée du journalisme qui est rarement en adéquation avec les réalités du métier, avec un espèce de graal d'être présentateur télé, éditorialiste pour une parution papier, et au-delà de ça, point de salut. Donc c'est très très réducteur, évidemment, par rapport à toute la diversité au sein d'une rédaction.
Barbara Chazelle qui appelle les jeunes journalistes à prendre conscience de la fracture et de la défiance entre les médias et la population. L'un des nombreux défis du journalisme qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour du Congrès international.
Abdelhak El Idrissi. À Hong Kong, après une nouvelle journée de mobilisation, le week-end dernier, les protestataires promettent de nouvelles manifestations si le gouvernement ne retire pas son projet de loi de l'ordre du jour du Parlement. Le texte en question prévoit d'autoriser les extraditions vers la Chine. La chef de l'exécutif assure aujourd'hui que ce projet de loi est mort. Un mensonge, selon un porte-parole des manifestants. Au Venezuela, les négociations entre le gouvernement et l'opposition reprennent cette semaine en vue d'une sortie de crise autour de l'opposition entre le chef d'État contesté, Nicolas Maduro, et de Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par plus d'une cinquantaine de pays. Les discussions vont donc reprendre à la Barbade, sous l'impulsion de la Norvège, plus d'un mois après l'échec des rencontres d'Oslo. Benjamin Delisle.
Pour l'opposition, l'annonce de la reprise des négociations ressemble à un aveu d'échec. La semaine dernière, c'était inenvisageable pour Juan Guaido à cause de la mort d'un militaire en détention, probablement sous la torture. Et aujourd'hui, il donne raison à Nicolas Maduro, qui répète depuis des semaines que le dialogue va reprendre. Il faut dire que le leader de l'opposition est face à un mur. Ses appels à manifester ne sont plus entendus, et la pression internationale semble n'avoir aucun effet sur son rival qui s'accroche au pouvoir. Même les sanctions américaines n'y font rien, à part empirer le quotidien des Vénézuéliens fatigués d'entendre des promesses sans résultat. Face à ce constat, l'opposition n'a que deux issues, l'une radicale, solliciter une intervention militaire étrangère. Un scénario très peu probable, mais qui reste envisagé. Juan Guaido a d'ailleurs annoncé ce dimanche que le Venezuela allait rejoindre le TIAR, un traité continental de coopération militaire. L'autre issue, la négociation pacifique, est bien plus réaliste. Mais une fois encore, l'opposition semble s'y engager avec la même idée fixe, ne rien lâcher sans obtenir un départ immédiat de Nicolas Maduro. Et c'est précisément ce qui a fait échouer les premières négociations à Oslo en mai dernier.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. La météo de ce mardi, des orages sur les Pyrénées, l'Occitanie et la Corse. Temps calme et sec partout ailleurs, avec un soleil généreux au nord de la Seine. Les températures ce matin sont comprises entre 8 et 16 degrés au nord et de 14 à 24 au sud. Les éditions de ce matin ont été préparées avec Emmanuel Faucillon et François-Charles Domergue.